Bonjour et welcome, vous écoutez l'Amérique dans tous ses états, un podcast hebdomadaire consacré à l'actualité des États-Unis. Au micro depuis New York, Daniel Hoffman, et avec moi mon collègue du quotidien montréalais La Presse, Richard Etu. Bonjour Richard.
Bonjour Daniel.
Alors chaque semaine, comme dans les précédents épisodes, on va se pencher sur un sujet qui fait les grands titres de la presse américaine en essayant de le décrypter, de l'analyser, de vous l'expliquer. L'Amérique dans tous ses états, épisode 3, c'est parti. Mais que se passe-t-il en Virginie? Des photos racistes qui refont surface, des accusations d'agression sexuelle et de viol, des appels à la démission des principaux responsables politiques locaux et un parti démocrate au bord de la crise de nerfs. La Virginie vit depuis une dizaine de jours une crise politique assez inédite. Pour bien qu'on comprenne ce qu'il se passe dans ce vaste état de la côte est des États-Unis, je voudrais, Richard, commencer par un petit rappel des faits. Tout a débuté par une photo vieille de 35 ans, un cliché publié dans l'album de promotion scolaire de l'actuel gouverneur de Virginie, le démocrate Ralph Northam, à l'époque où il était étudiant en médecine. Sur cette photo, on voit deux jeunes hommes déguisés, l'un avec un costume du Ku Klux Klan, la tunique blanche et la capuche pointue, qui sont les emblèmes de ce groupe suprémaciste blanc. Le second, grimé en noir, le visage grossièrement maquillé, il fait ce qu'on appelle aux États-Unis un blackface. Richard, est-ce que tu peux nous rappeler dans quel contexte cette photo est apparue dans les médias américains?
Alors, on se retrouve à la fin d'une semaine où le gouverneur de Virginie avait été malmené sur le plan politique. Il était mêlé à une controverse sur l'avortement. Il avait fait une déclaration qui avait été saisi pour l'accuser, ni plus ni moins, d'être partisan de l'infanticide. Hein? On parle d'un projet de loi changeant les conditions permettant l'avortement tardif en Virginie. Les républicains se sont servis de sa déclaration et à la fin de cette semaine-là, le gouverneur était vulnérable. Et un site conservateur plutôt obscur publie l'information concernant cette photo-là. Et la première réaction du gouverneur, c'est de dire non seulement à ceux qui l'entourent politiquement, mais aussi au public, « Je m'excuse, j'étais une des personnes dans cette photo-là. » Il ne dit pas qui, la personne grimée en noir ou la personne déguisée en membre du Ku Klux Klan, mais dès après sa déclaration, on réclame sa démission. Malgré le fait qu'il ait avoué, les gens trouvent inacceptable qu'il se retrouve dans une telle position. Et non seulement les dirigeants démocrates de l'État réclament sa démission, mais aussi les candidats du Parti démocrate à la présidence. L'ancien vice-président du Parti démocrate, Joe Biden, demande sa démission. Et donc, on se retrouve face à une crise.
Et le gouverneur Northam, quelques heures plus tard, fait marche arrière et dit que finalement, ce n'était pas lui, l'un des deux étudiants, sur cette photo.
Oui, donc le lendemain matin, ou l'après-midi plutôt, il convoque une conférence de presse. Aux côtés de sa femme, il explique aux journalistes qu'après avoir étudié la situation, il s'est aperçu qu'en fait, ce n'était pas lui qui était dans la photo. Et il ajoute quelque chose qui est à la fois cocasse, mais qui a empiré sa situation. Il a admis qu'il avait déjà grimé son visage lors d'un concours de danse en 1984 où il tentait de passer non seulement comme danseur pour Michael Jackson, mais aussi comme pour son physique. Donc, il admet avoir déjà eu recours au blackface. Donc, les gens disent, bon, d'une part, il se contredit par rapport à sa première version et il ajoute cette anecdote-là qui ne l'aide pas vraiment.
Northam a exclu de démissionner malgré les appels qui se sont multipliés ces derniers jours. Est-ce qu'on peut dire qu'il a convaincu?
Pas vraiment. Les appels à la démission continuent à être maintenus par les démocrates, mais il faut noter qu'un sondage publié samedi soir, donc une semaine plus tard dans le Washington Post, indique que la majorité, une forte majorité des Afro-Américains en Virginie, disent qu'il ne doit pas démissionner en raison de cette controverse-là. On parle de 58%. De façon générale, la population de Virginie est divisée. 47% oui, 47% non. Et il faut noter que ceux qui sont les plus en faveur de sa démission, il se trouve que ce sont des républicains et généralement blancs. Donc, on peut penser que leur réaction est intéressée.
Alors, si jamais il venait à démissionner, Northam serait normalement remplacé par le gouverneur adjoint de Virginie, qui est son successeur direct. C'est aussi un démocrate, son nom c'est Justin Fairfax. Sauf que, lui aussi est dans la tourmente, hein, puisque deux femmes affirment avoir été agressées sexuellement par Fairfax. Richard, on parle là d'accusations extrêmement graves.
Oui, la première femme s'appelle Vanessa Tyson. Elle est aujourd'hui politologue dans une institution d'enseignement supérieur en Californie. Elle accuse Fairfax de l'avoir forcée à lui faire une fellation dans une chambre d'hôtel à Boston en 2004 pendant la convention du Parti démocrate qui avait couronné John Kerry. Lui dément cette accusation, dit que cette relation-là avait été consensuelle. Par la suite, il y a une deuxième femme, Meredith Watson, avec laquelle Fairfax a étudié à l'université de Duke en Caroline du Nord. Et donc, lui est accusé par cette femme-là de viol en 2000. Et il nie aussi cette accusation-là. Il dit que cette relation était consensuelle. Or, dans le contexte du mouvement MeToo, ce sont des accusations qui sont prises très au sérieux. Encore une fois, il y a des demandes de démission de personnes non seulement en Virginie, mais aussi démocrates sur le plan national. Et la réaction de Fairfax, c'est non seulement de nier ces accusations-là, mais de réclamer une enquête. On se parle le dimanche. Demain, lundi 11 février, s'il n'a pas démissionné, les dirigeants démocrates de la Virginie menace de lancer une procédure de destitution contre lui.
Et puis Richard, il faut rappeler, puisque c'est un élément dont on a beaucoup parlé dans la presse américaine, que Fairfax est un Afro-Américain, ce qui a peut-être contribué à ce que cette polémique prenne encore plus d'ampleur en Virginie.
Oui, dans une certaine mesure, les gens se réjouissaient pas, mais après la controverse dans laquelle Northam s'est retrouvé, on se disait il y a quelque chose de bon qu'on peut tirer de cette affaire-là, puisque s'il démissionne, il sera remplacé par un politicien jeune et afro-américain. Or, ce jeune afro-américain est maintenant a été mis sur la sellette et son poste est en danger. Et ce qui est particulier, c'est que Northam, le gouverneur, pourrait survivre à la crise et lui, Fairfax, est copé dans un État où les Noirs ont joué un rôle crucial dans l'élection de Northam. Donc, ça ajoute à la difficulté de la situation.
Alors, si on continue dans l'ordre de succession, Northam, Fairfax, le troisième personnage de l'État de Virginie, c'est le procureur général, Mark Herring. Eh bien, lui aussi, il a admis s'être grimé en rappeur en 1980. Et puis, il y a même le chef de l'opposition républicaine, Thomas Normant, qui lui était responsable à la fin des années 60 d'un album qui regroupait plusieurs photos d'étudiants faisant ces fameuses blackface. Ça commence à faire beaucoup, surtout dans un État comme la Virginie, où on connaît le poids de la question raciale. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, Richard?
On connaît l'épisode de Charlottesville, juillet 2017. Des Blancs se rassemblent dans cette ville-là pour protester contre le déboulonnage de la statue d'un général des États confédéré, Robert E. Lee, et ces manifestations-là dégénèrent, et on a une confrontation entre militants antiracistes et manifestants pro-Robert Lee, parmi lesquels se retrouvent des néo-nazis, des suprémacistes blancs, et il y a un accident mortel qui se produit, un des néo-nazis prend sa voiture et tue une des manifestantes. Alors évidemment, ça devient un drame national. Le président Donald Trump est invité à commenter la chose et on sait qu'il a déclaré que c'est triste ce qui s'est passé, mais il faut reconnaître qu'il y a des bonnes personnes dans les deux camps. Cette déclaration, évidemment, reste collée à Donald Trump, mais ce qui s'est passé en Virginie autour de ce monument illustre comment l'héritage de l'esclavage, l'héritage de la guerre civile est encore présent dans cet État-là, qui était le plus important parmi les États confédérés. C'est là où était le siège de la présidence de Jefferson Davis. C'est là où était issu Robert E. Lee également. Donc, ce qui se passe ne se passe pas dans n'importe quel État américain. C'est un État important sur le plan de l'histoire. On voit très bien que les monstres ou les fantômes du passé ressurgissent de façon parfois étonnante. D'autant plus qu'on a l'impression, ou on avait l'impression, que cet État avait tourné la page, qu'il présentait une image moderne où les démocrates, depuis Barack Obama, avaient réussi à remporter chacune des élections présidentielles.
Les démocrates, justement, Richard, on va en parler. On sait que depuis les débuts du mouvement MeToo, ils ont mis en place cette politique de tolérance zéro vis-à-vis des agressions sexuelles, évidemment, également des épisodes racistes qui ont pu exister dans la vie de certains de leurs élus. Quelles conséquences tout ce qui se passe en Virginie aujourd'hui peut avoir sur le Parti démocrate à l'échelle nationale?
Ça illustre la difficulté d'être conséquent avec les principes qu'on énonce et qu'on défend. Évidemment, ce n'est pas isolé du comportement comme tel du président américain. Hein. On veut se démarquer de lui, non seulement pour les questions reliées au mouvement MeToo, mais aussi pour le traitement ou les relations avec les minorités. Et on constate que chaque personne ou plusieurs personnes se retrouvent avec des situations discutables. Et il faut être conséquent, il faut être logique et agir en conséquence. Sinon, il y a la possibilité d'être taxé d'hypocrisie. Donc, ce qui se passe en Virginie est très important pour permettre au parti de tracer une ligne claire sur ce qu'il est, ce qu'il veut devenir et ne pas reprendre des comportements qu'ils peuvent critiquer quand c'est les républicains qui les font. Si on se reporte à l'épisode de Brett Kavanaugh, les démocrates refusaient les excuses présentées par les républicains. Ben, aujourd'hui, ils sont placés face aux conséquences d'une telle attitude, qui est de ne tolérer aucun comportement de ce type.
Et ça fait très clairement partie questions qui vont animer le débat présidentiel de 2020, dont on va parler dans les prochaines semaines, notamment dans ce podcast. Ce podcast qui, d'ailleurs, touche déjà à sa fin. On espère que ça vous aura plu. On vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Comme on dit ici, stay tuned, restez branchés.